France Inter, 8h30. La revue de presse, Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
La rentrée des classes évidemment et la rentrée de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, c'est dans le Figaro.
Et on se demande comment l'élève Blanquer va passer cette année, lui qui est déjà tellement connu puisqu'il a déjà tellement parlé, tant d'interviews données par le ministre avant la rentrée. Allez, ne boudons pas le plaisir de la langue dans le Figaro, en défense du français, en défense des fables de La Fontaine que les enfants adorent, dit-il, attirés qu'ils sont par un vocabulaire recherché, le ministre nous dit ceci. La langue, c'est la vie, le ministère de l'Éducation, c'est d'abord le ministère de la langue, c'est un enjeu de civilisation et de lutte contre les inégalités. Alors, c'est toujours intéressant, Nicolas, de voir ce qui anime les hommes de pouvoir, leur besoin de parler plus haut que le quotidien. Une rentrée, c'est technique, les Ducnat, ce sont des constantes. Les Échos racontent, par exemple, la grogne syndicale qui est en train de monter, mais Jean-Michel Blanquer veut mettre du sens. Il a toujours voulu faire ça. Si ça vous amuse, allez sur Internet, sur le site du Point, allez relire les chroniques qu'il donnait quand il n'était pas encore ministre. La langue est ce qui nous soutient, elle est notre ossature, elle est notre trésor. Il écrivait ça en avril dernier, donc il n'a pas changé de ministre, sauf que maintenant, il est ministre et on le regarde autrement. Et c'est le regard que l'on porte sur lui, le regard idéologique qui est intéressant dans la presse aujourd'hui, parce que l'école, c'est le prétexte de l'idéologie. Comme Jean-Michel Blanquer représenterait un retour à l'ordre, lire, écrire, compter, des tenants du conservatisme scolaire l'ont investi comme leur vengeur. C'est dans le Figaro Jacques Julliard, qui est un grand historien, qui vient de la gauche, la famille de la CFDT et de Rocard, mais qui sur l'éducation poursuit, je cite, « les docteurs du crétinisme égalitaire ». Eh bien, Julliard félicite Blanquer de liquider l'œuvre néfaste du précédent gouvernement et d'abattre l'école Mérieux-Bourdieu, je traduis. Philippe Mérieux, c'est un chercheur en sciences de l'éducation, et feu Pierre Bourdieu était le sociologue des inégalités que Julliard accuse d'avoir égaré l'école. L'école, dit Julliard, n'est pas faite pour réduire les inégalités. Vous voulez réduire les inégalités, réduisez les écarts de salaire. Voilà, même La Fontaine n'y suffira pas. On trouve quand même le vieux syndicaliste. Dans l'opinion, c'est Malika Sorel-Sutter, qui est une essayiste, qui conseillait notamment François Fillon, qui applaudit Blanquer, mais elle lui reproche de ne pas faire tout le travail. Je la cite, « Il a un angle mort, l'immigration de culture extra-européenne. Il faut savoir, dit-elle, que depuis 1980, nombre de réformes, dont celles qui ont dégradé la langue française, n'ont été menées que pour adapter l'école à l'arrivée des nouveaux publics. » Fin des guillemets, traduction, comprenez que pour elle, l'immigration est responsable aussi de la crise scolaire. Voilà comment nos écoles ne sont pas un sanctuaire.
Et le ministre lui-même, Claude, est-ce qu'il se positionne dans ce débat idéologique ?
Il freine ! Bon, il faut dire qu'il avait commencé très haut Jean-Michel Blanquer. C'était en juillet dans le journal du dimanche, avec une phrase choc du genre de celle qui vous marque. Le vrai ennemi du service public, disait-il, c'est l'égalitarisme. Depuis donc, il calme. La semaine dernière, dans Libération, il se plaignait d'être caricaturé. Et aujourd'hui, dans le Figaro, il apaise encore. L'éducation n'est ni de droite ni de gauche. L'éternelle querelle politique et syndicale sur les sujets éducatifs ne doit pas être une fatalité. On doit aller de l'avant à la lumière des expériences, comme le font si bien d'autres pays. Bah tiens, justement, les autres pays, ils sont cités dans le Parisien aujourd'hui en France. Ça marche ailleurs, pourquoi pas chez nous? Et on y lit notamment dans le Parisien une Finlandaise de 16 ans, Sani Tokojervi, qui nous dit que dans son pays, les élèves choisissent leur emploi du temps et le zéro n'existe pas. Allons bon, les étrangers seraient-ils laxistes et pédagogistes?
8h34, merci d'écouter Inter, Claude. L'essai nucléaire coréen dans les journaux, évidemment.
Oui, avec ce constat dévasté du Figaro, le problème avec la Corée du Nord, c'est qu'on ne sait pas. La grande question est de savoir si Kim Jong-un est un fou. Et Libération complète le Figaro. Le président américain dans la même position que Kim, il est le fou de l'histoire. Le doigt sur le bouton rouge. Que se passe-t-il quand il y a deux fous dans la pièce? Donc on sait finalement une chose. Quand la Corée du Nord fait la bombe, nous, dans la presse, on s'en prend à Donald Trump, l'homme qui n'est décidément pas à la hauteur, quels que soient les sujets. Le Figaro, pages économiques, nous explique comment il n'est strictement pour rien dans la reprise américaine. Quant à la conduite des affaires du monde, on tremble. Pour Pyongyang, Trump est un tigre de papier, nous dit dans Libération, un expert de la Corée, Joël Witt. L'opinion dénonce l'hyper-impuissance américaine, mais surtout l'opinion encore rapporte ceci. Écoutez bien, Donald Trump s'apprête à frapper la Corée du Sud. Oui, du Sud. Parce que voyez-vous, le président américain n'est pas content du déficit commercial de son pays. Il envisage de dénoncer l'accord de libre-échange qui le lie à ce pays allié, théoriquement protégé et menacé directement. Et là, on est effectivement un peu chez les fous. D'ailleurs, même quand on ne parle pas de Trump directement dans les journaux, on le devine. C'est dans Rue 89 sur le web, cette interview d'un psychiatre qui dit « Publier beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est trahir une fragilité narcissique. » Mais non, il ne parlait pas seulement de Twitter.
8h36 pour finir, Claude, un groupe de rock dans le New York Times.
Et là, on parle encore des valeurs. C'est un groupe qui s'appelle Voice of Bassprout. C'est un groupe indonésien. On doit prononcer son nom Bassprout. Ça signifie le bruit dans un dialecte de Java. Alors c'est un groupe de hard rock, de heavy metal, qui chante la tolérance, qui a été invité aux dernières fêtes de l'indépendance du pays, donc des stars. Un groupe de filles, la guitariste chanteuse a 17 ans, la percussionniste aussi, la bassiste en a 15. Des filles de petits fermiers révoltés, canalisées par la musique, et qui portent toutes les trois sur leur tête le foulard des musulmanes pieuses, donc le hijab, sur la tête de joueuses de heavy metal dans le premier pays musulman du monde touché par le terrorisme islamiste. À l'école, le principal les désapprouve, la musique c'est haram, elles subissent des menaces de mort, mais elles persistent et le New York Times les compare au punk féministe américain des années 90. Voilà pour nos idées complexes et mondialisées, Voice of Bassprout, messieurs, dames, et ça vaut pour la rentrée en musique du ministre Blanquer.
Ah oui, c'est viril. Merci beaucoup, Claude Askolovitch.
Oui. Qu'est-ce que c'est que cette expression, monsieur de Montmorency?
Voilà, je suis rappelé à l'ordre, je présente mes excuses pour l'usage de cet adjectif. C'est féministe, d'accord. Je reprends le vôtre, Valérie Pécresse.